Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 10 octobre 89.
Je ne fais pas cette année-ci, puisque ce n'est pas le début du cours de la philosophie du vivant. On a commencé l'année dernière. Une petite topic, faites-la pour vous. C'est toujours important, une topic historique. Quels sont ceux qui ont essayé d'entrer dans ce problème de la philosophie du vivant? Vous allez les compter sur les doigts. Ils ne sont pas très nombreux. C'est très curieux. Saint Thomas a commenté le De Anima, le Peripsuchès d'Aristote. Alors, ceux qui lisent le latin de Saint Thomas, c'est quelque chose qu'on doit lire. Il n'y a pas de traduction. C'est à faire. Alors, très très vite, ça a été les livres de scolastique sur la psychologie rationnelle, comme on l'a appelé. C'est pas du tout la psychologie rationnelle, ça. C'est la philosophie du vivant. Alors vous voyez qu'il serait intéressant, et on devrait le faire ici pour vous, si le père Gabriel a le temps, il le fera pour vous, parce que c'est important de voir un peu les tournants de ce problème de la philosophie du vivant. Aristote est le premier qui donne un traité de philosophie du vivant. Il le donne à l'intérieur de sa philosophie de la nature. Vous verrez ça en voyant Aristote. Pourquoi le donne-t-il à l'intérieur de sa philosophie de la nature? Est-ce que c'est tout à fait juste? C'est un très gros problème. Est-ce que là on doit dépasser Aristote pour faire de la philosophie du vivant quelque chose de propre comme méthode? Ce que je croirais assez volontiers. Donc là, il y a un dépassement par rapport à ce qu'Aristote nous dit. Vous allez tout de suite comprendre. Le traité du vivant, de fait, avec la scolastique, s'est orienté vers le point de vue de la psychologie. C'est très vrai qu'aujourd'hui, le traité de la philosophie du vivant race humaine. On doit aujourd'hui préciser très nettement que notre philosophie réaliste regarde l'homme. Je vous l'ai dit. Mais en regardant de l'homme, elle regarde le vivant. En regardant l'homme, elle regarde l'être. Et c'est l'homme qui m'intéresse au point de vue philosophique. Vous comprenez bien. Et ça, je dois préciser beaucoup plus que ne le fait Aristote. Je comprends très bien la position d'Aristote face à Platon. C'est merveilleux ce qu'il a dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous ne devons pas être beaucoup plus attentifs aux problèmes philosophiques par rapport à l'homme? Et alors, ça se pose très fort avec la philosophie du vivant. Ça, c'est une petite remarque nécessaire pour que nous puisions dans Aristote ce qu'on doit puiser et qu'en même temps, il y ait une certaine liberté de penser. On ne va pas répéter ce que dit Aristote. On va chercher à trouver ce que représente cette philosophie du vivant au-delà de la biologie, au-delà de la psychologie. Première remarque très importante.
C'est être, Aristote dit ça, pour moi,
existait parfaitement. Pour certains, ils existent parfaitement au petit déjeuner. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Ou le soir, pas ici, mais d'autres. Pour d'autres, c'est au golf. Là, ils vivent. Ils existent. Et ainsi de suite, vous voyez, c'est très curieux. Vivre, c'est exister. Alors, vous voyez comment le vivant est lié à l'être, il est lié au devenir. C'est pour ça que je ne peux pas connaître le vivant sans la métaphysique et sans la physique. Et c'est en ce sens-là que je crois que la philosophie du vivant est distincte de la philosophie de la nature, est distincte de la philosophie de l'être.
Situation privilégiée pour saisir
ce que c'est que parler, ce que c'est que regarder, ce que c'est que toucher, ce que c'est que manger, ce que c'est que dormir, m'endormir. Faut pas trop y penser, hein, parce que si vous y pensez trop, vous endormirez jamais. Mais c'est quand même très cru, hein. Vous voyez, la crainte du gosse quand il va pour dormir, il a peur. C'est pour ça que Rousseau disait qu'il fallait laisser s'endormir d'eux-mêmes, pas les conduire trop vite. Et je connais par des amis au moment de Rousseau. Je suis. J'existe. Quand je suis passionné, j'existe. Et donc, je saisis et j'essaie de saisir à travers cette subjectivité quelque chose d'objectif qui va se rattacher à un principe. style en écriture magnifique d'une petite, sans doute de 12 ans. Et là, vous avez parlé, elle ne dit pas plus ça, elle ne dit que ça. Mais on voit très bien pourquoi elle dit ça. Il s'est tu sur l'âme. Et cette petite qui doit être chrétienne a entendu parler de son âme. Et ce grand savant ne parle pas de l'âme. Il croit parler de l'homme et l'âme. Alors il a écrit un livre, et l'âme, dit Brigitte. Je trouve ça très joli. Il a répondu. Et dans ce livre, il termine par une citation d'un philosophe croyant qui parle de l'âme au plan spirituel. C'est assez beau. Donc, ce savant positiviste comme formation, il est encore très fort. Cependant, se dit, il doit y avoir quelque chose. Mais quoi? Ma science ne me permet pas de le dire. Et Aristote dit, l'âme, c'est la quiddité du corps. Le corps n'est intelligible que par l'âme. Je me souviens de la tête, c'était à Fribourg, de ce grand d'Espagne qui était docteur en biologie, en sciences biologiques de Genève, et qui était venu me voir à Fribourg. Et je faisais un séminaire sur le De Anima d'Aristote. Alors je l'ai invité. Et c'était juste le moment où Aristote dit que l'âme est quiddité du corps. Alors j'explique que la seule intelligibilité qu'on a vraiment du corps humain provient de l'âme. Alors je le voyais. Et à la fin du coup, il s'est précipité sur moi. Il dit alors, la science biologique, qu'est-ce qu'elle étudie? Puisqu'on ne dit jamais un mot sur l'âme. La cause matérielle. Et donc, elle ne nous dit pas l'intelligibilité propre de l'homme vivant. C'est terrible. Si je suis aristotélicien. Alors, est-ce que c'est vrai ce que dit Aristote? On doit se poser la question. La biologie, les sciences biologiques ne disent que quelque chose de matériel par rapport au cadavre. Donc, c'est équivoque. Ce n'est pas une connaissance propre. C'est matériel. Alors, est-ce qu'Aristote a raison? Je pose la question. Est-ce qu'Aristote a raison? Parce que je ne suis pas Aristote aveuglement. Et c'est une des grandes questions qu'on doit se poser quand on fait la philosophie du vivant. Mais c'est une grande des questions que notre frère Pascal, qui a fait toutes ses études biologiques, ne cesse de se poser quand on fait la philosophie du vivant. Et je comprends très bien. Est-ce que toute cette science biologique, c'est de la matière, c'est matériel? Et on s'en sert pour guérir. Et là, la guérison, c'est un vivant. Mais le passage de l'expérimentation sur le cadavre ou sur les petits animaux, c'est ce qui se fait. Hein. Tous les produits pharmaceutiques, on fait l'expérimentation sur des petits cochons d'Inde. Ce sont des bons petits animaux, ça. Ils ne crèvent pas, donc l'homme ne crèvera pas. On fait l'application et l'homme crève. Voyez, connaissance. connaissance analogique. On ne connaît pas directement l'homme comme vivant. Alors on a la tentation d'expérimenter sur l'homme. Hitler. Et à partir d'Hitler, c'est entré dans le monde. Et on fait des expérimentations sur l'homme en disant, après tout, il y en aura quelques-uns qui mourront. Mais si on peut sauver les autres, hein, politique machiavélique, on peut faire le mal pour le bien. A-t-on le droit de faire le mal pour le bien? Oui, toutes ces questions-là, nous devons les avoir présentes quand on fait la philosophie du vivant. C'est pour ça que c'est tellement actuel. Et c'est pas commode. Hein. Faut pas aller trop vite. Hein. Faut surtout pas assommer trop vite les biologistes. Mais on doit essayer de comprendre la philosophie du vivant. Alors, après ces quelques remarques, qui sont des remarques préliminaires, un premier chapitre sur la philosophie du vivant. Il faut regarder la complexité, la méthode nouvelle dans laquelle nous allons nous trouver pour essayer de réfléchir sur la philosophie du vivant. Alors, je redis, la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. Vous ne pouvez pas faire une philosophie du vivant des araignées, si sympathique qu'elle soit. Vous ne pouvez pas. Vous ne connaissez pas très bien ce que c'est que l'araignée. Vous devez essayer de connaître le vivant à partir de l'homme, puisque il n'y a que moi, vivant, qui peut saisir ce qu'il y a de tout à fait particulier au vivant. Qu'est-ce qui caractérise le vivant? Quelle est l'expérience propre du vivant à partir de laquelle nous partons? Aristote dit, le vivant se meut. Le vivant se meut. Donc, la nouvelle expérience, c'est qu'il se meut. Vous montez l'escalier, vous vous mouvez. Puis patatras, je ne sais pas ce qui arrive, mais il descend du haut de l'escalier, quelque chose qui vous renverse et vous tombez. Et vous dégringolez l'escalier. À ce moment-là, vous n'êtes pas celui qui se meut, mais vous êtes celui qui est mu. Et on passe de l'un à l'autre assez facilement. Celui qui est mu, celui qui se meut, et celui qui est mu. Tous on a fait cette expérience. Dès qu'on a tombé, dès qu'on est, pour une raison ou pour une autre, on a fait une chute. Quand vous faites une chute, vous êtes mu. Quand vous vous relevez, vous vous mouvez. Alors, ce que dit Aristote, est-ce que c'est juste encore aujourd'hui? Le vivant, c'est celui qui se meut. Les progrès de la science biologique qui étudie la matière vivante, ça doit nous aider à purifier la pensée d'Aristote. Comme la psychologie nous aidera à purifier ce qu'on peut dire sur les passions, sur l'imaginaire. Faut pas rejeter, faut distinguer. Et comprendre la distinction entre les deux. Eh bien, je crois que ça reste encore reste resté à peu près jusqu'au moment où, en raison de la fatigue, du poids du corps, ça va se tasser.
Sert aussi dans la complexité.
Cependant, c'est toujours moi qui est celui qui réfléchit sur cette complexité, qui l'analyse et qui la décrit. Oui, premier problème, après ces petites remarques, décrire la complexité étonnante de l'homme vivant. Vivant dans son corps, je vis dans mon corps. C'est pour ça que j'ai besoin de temps en temps de prendre une nourriture. Puis c'est l'heure, hein, c'est bientôt l'heure. J'ai besoin de prendre une nourriture en raison de la complexité. Et c'est pour ça que les légumes sont complexes. N'est-ce pas? Pour prendre, me nourrir. Complexité psychologique. Les drames psychologiques que je porte en moi. Les tensions psychologiques que je porte en moi. Puis de temps en temps, une lueur extraordinaire de simplicité, contemplative, d'amour. C'est si simple d'aimer. Mais il y a un support psychologique énorme. Alors, une petite pointe, toute petite pointe. J'aime. Quand je dis j'aime, qu'est-ce que ça veut dire? Conscience pure, nette, j'ai mis le réveil. Je me réveille pas.